VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 janvier 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, nous allons revenir ce matin sur l'investiture historique de Félix Tshisekedi hier à Kinshasa, où il a prêté serment, consacrant ainsi la première transmission pacifique du pouvoir de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous aurons aussi le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde, notre page sport ainsi que la Minute Éco. Donc, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est officiellement devenu hier le 5e président du pays. À l'issue des élections du 30 décembre, il a succédé à Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans et à qui il a rendu un vibrant hommage. Monsieur Tshisekedi a aussi mis en exergue l'importance géostratégique du pays. Un extrait de son discours d'investiture.
Monsieur le Président, nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations.
Cette investiture de Félix Tshisekedi constitue la première transmission pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1960, dit Sango.
Félix Tshisekedi, 55 ans, a reçu les symboles du pouvoir hier lors d'une cérémonie au Palais de la Nation, siège de la présidence à Kinshasa. Avec la chaleur, l'émotion et un gilet pare-balles, M. Tshisekedi a eu un malaise des quelques minutes lors de son discours d'investiture. Félix n'oublie pas, papa avait dit, le peuple d'abord a scandé la foule des partisans en référence à son père Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle samedi, le nouveau président devra partager les pouvoirs avec les Front commun qui a gardé la majorité à l'Assemblée nationale. C'est au sein de cette majorité qu'il devra chercher son premier ministre à partir de lundi, date de la rentrée parlementaire. Dans un message de revoir la veille, le président Joseph Kabila avait encouragé les leaders politiques à privilégier une coalition plutôt qu'une cohabitation. La nouvelle équipe va prendre la direction d'un pays riche en minerais où le 2/3 des 80 millions d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour.
De nombreux défis attendent donc le nouveau président de la RDC. Un gigantesque pays au cœur de l'Afrique centrale. Écoutons à ce propos Christian Lusakweno, analyste politique et directeur de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM.
Si on se fie à son discours d'investiture, le gouvernement à investir à l'Assemblée nationale aura les priorités suivantes. La pacification du pays, on parle notamment de tout ce qui se passe à l'Est et au Kasaï chez lui. La lutte contre la pauvreté, il y a beaucoup à faire de ce côté-là, avec le développement des infrastructures, avec la multiplication des points de production, ce qui n'est pas chose aisée. Le rétablissement de l'état de droit avec une justice qui va rendre la justice. La justice qui a beaucoup été montrée du doigt ces dernières années comme une justice aux ordres. Il y a la lutte contre la corruption et les antivaleurs, il les a cités, mais la corruption, c'est une véritable grande graine de la société congolaise, notamment l'administration et aussi ceux qui veulent éventuellement investir. Et justement, dans les investissements, il y a la facilitation d'affaires que Félix Tshisekedi cite parmi ses priorités, tout comme le développement des secteurs ruraux et la promotion des jeunes, des femmes et de la presse. Sur ce dernier point, il a d'ailleurs dit que cette presse doit être réellement le quatrième pouvoir. Dans son discours, on sent plutôt le souci d'abord de régler les problèmes du Congo, avec ce rappel des militants de son parti venus nombreux, je vais le dire en lingala, Félix Kobo Salaté Papa Lobaki, en français c'est Félix, rappelle-toi que ton père, Étienne Tshisekedi, que tout le monde connaît, a toujours dit le peuple d'abord.
Le journaliste et analyste politique, directeur de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM, Christian Lusakweno. Qu'attendent les Congolais eux-mêmes de leur nouveau président? Commentaire recueilli à Kinshasa après l'investiture de Félix Tshisekedi.
Ce que je peux dire à notre président Félix Tshisekedi, s'il peut améliorer ce que le président sortant n'a pas pu réaliser, c'est que je vais lui demander d'améliorer, surtout la sociale, les emplois, l'économie. Notre économie est vraiment trop bas. Donc s'il peut relever notre économie, et surtout, je parle plus de social, ça sera mieux.
Vraiment qu'avec ce nouveau président, que nous puissions avoir, comme il l'a bien dit d'ailleurs dans son discours, il faut que nous ayons, chaque Congolais ait une carte d'identité, il faut que chaque Congolais, le Congolais retrouve sa valeur. Donc quand nous voyons par exemple cette étape-là de Mobutu, nous avons dit que nous voyons que les Congolais étaient quand même respectueux, que ce soit ici en Afrique qu'à l'étranger. Donc nous voulons que cette valeur-là revienne parfaitement à tout citoyen là-dedans du Congo.
Tellement une donne de travail, le Congo change. Dans le Congo émergent, comment? Le Congo change, c'est ça, c'est moi qui l'attends. Nous, en tant que femmes, tu as le demandé d'abord. Donc, c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses pour la femme. Qu'il nous met à l'aise seulement, en tant que femmes, la sécurité dans notre pays.
Nous voulons un changement vraiment qui sera visible. Nous ne voulons pas que les changements soient sur les plans théoriques. Nous voulons vraiment que le peuple congolais puisse vivre ces 10 changements. Par exemple, sur les plans sociaux, sur les plans sécuritaires. Nous voulons qu'il puisse changer des choses de façon que même la guerre qui se passe à l'Est puisse terminer. Nous voulons qu'il y ait des emplois, en tout cas. Nous voulons que les Congolais soient respectés et qu'il n'y ait pas de tracasserie que nous sommes en train de vivre par rapport même à notre police.
Nous voulons un changement sur le plan social. C'est ce que nous déplorons tous comme Congolais. Nous souffrons. Voyez-moi par exemple, je vais à Kinkol, je ne sais pas, je vais arriver à quelle heure. Sur le plan social, si on aménage, on voit les fonctionnaires tels qu'ils souffrent là, on améliore tout ce qu'il y a comme condition, nous serions très très contents.
Ces réactions ont été recueillies hier à Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le reste de l'actualité, le nouveau président malgache, Ange Rajoy, a présenté hier son premier gouvernement. C'est une équipe de 21 ministres et un secrétaire d'État placé sous le signe de l'austérité. Le point avec Ekia Badou.
Le gouvernement est composé de 22 membres au lieu de 30 auparavant. S'est félicité devant la presse le président malgache Ange Rajoel. Cette disposition a été prise dans un objectif d'austérité et de réduction des dépenses publiques, a-t-il ajouté. Il a également exigé des résultats rapides à l'équipe dirigée par le Premier ministre Christian Tsay, reconduit dans ses fonctions. D'ici 6 mois, une évaluation sera effectuée et dans 1 an, nous constaterons qui aura réussi à relever les défis et qui aura échoué, a-t-il assuré. Le ministre de l'Intérieur, Tiana Rivelo Razafi Maifa, a été maintenu. Le milliardaire à la tête d'un groupe de médias, Neina Andrea Sitoen a été nommé aux affaires étrangères. Monsieur Rajoel, 44 ans, a remporté l'élection présidentielle du 19 décembre avec 55,66% des suffrages lors du second tour disputé face à Marc Ravalomanan.
Ici à Washington, le plan du président Donald Trump pour sortir du shutdown, le plus long de l'histoire américaine, n'a pas passé jeudi l'obstacle du Sénat. Mais après de longues semaines de surplace, les négociations entre démocrates et républicains ont finalement repris sur une possible solution temporaire. Explication de Jean-Roger Bion.
Le texte républicain soumis à un premier vote de procédure jeudi aurait permis de financer le gouvernement jusqu'en septembre et comprenait l'enveloppe pour le mur voulu par le président américain. Les républicains sont majoritaires au Sénat, mais avec 53 voix sur 100, ils avaient besoin des démocrates pour atteindre le palier des 60 voix nécessaires pour que la proposition de Donald Trump soit soumise à un vote final. Peine perdue, 50 voix pour, 47 contre. Dans la foulée, un même vote de procédure a suivi sur une contre-proposition des démocrates qui ne prévoyait de financer les administrations touchées que jusqu'au 8 février, le temps de négocier sur l'immigration sans aucun financement pour le mur. Elle a également échoué, mais, fait notable, a reçu plus de suffrages, 52 contre 44. Rapidement après ces deux échecs, les chefs républicains et démocrates du Sénat se sont réunis pour tenter de sortir de l'impasse. La Maison-Blanche leur a publiquement donné son feu vert pour négocier sur une loi de financement temporaire de 3 semaines, à condition qu'elle inclue un gros acompte pour financer le mur. Après de longues semaines de surplace, les négociations ont finalement repris aux États-Unis entre démocrates et républicains et devraient se poursuivre aujourd'hui afin de trouver une solution temporaire au shutdown le plus long de l'histoire américaine.
Le département d'État américain a ordonné hier au personnel non essentiel de quitter le Venezuela, mais ne ferme pas, a-t-il précisé, son ambassade à Caracas. La veille, le président contesté du Venezuela, Nicolas Maduro, avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis et donné 72 heures à leurs diplomates pour partir. Mais pour le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, M. Maduro n'était plus habilité à prendre une telle décision après que le président Donald Trump a reconnu le président de l'Assemblée nationale Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela. La Chine et la Russie ont, elles, réaffirmé leur soutien à M. Maduro, alors que M. Pompeo exhortait hier tous les membres de l'Organisation des États américains à appuyer M. Guaido. Washington a également demandé une réunion d'urgence samedi du Conseil de sécurité de l'ONU. La Minute Éco, Nanik Talani.
Le Niger et le Bénin ont signé hier à Niamey un accord visant à construire un oléoduc entre les deux pays afin d'exporter le pétrole nigérien au port de Cotonou à partir des champs d'Agadem dans le sud-est nigérien. Les travaux de construction des infrastructures de surface et de pipeline commenceront cette année. Le Niger veut atteindre une production globale de 110 000 barils par jour au lieu de 20 000 barils par jour actuellement. La Guinée équatoriale rejette le renouvellement du contrat de partage de la production du bloc R d'Ophir Énergie dans le projet gazier Fortuna, qui détient 1,3 milliard de réserves de gaz récupérables sur 3,4 milliards que compte le bloc R. En conséquence, Ophir n'est plus l'opérateur du bloc qui est maintenant retourné à l'État. Le département serait désormais ouvert à de nouveaux investissements dans le secteur des hydrocarbures. Pour terminer, le Zimbabwe doit 7,4 milliards de dollars de dettes extérieures et doit en verser 1,2 milliard de dollars en 2019, principalement à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Le ministre zimbabwéen des Finances, Ntuli Kubé, espère parler aux pays du G7 pour trouver un moyen d'effectuer ces paiements. L'Afrique du Sud a récemment évoqué la possibilité d'une aide financière pour le Zimbabwe.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Thierry Henry, suspendu de ses fonctions d'entraîneur.
Oui, Monaco a suspendu Thierry Henry de ses fonctions d'entraîneur au bout d'à peine 3 mois et demi et a confié l'équipe à son adjoint Franck Passy dans l'attente d'une décision définitive d'après le communiqué publié par le club. L'équipe d'Henry, qui avait été nommée entraîneur le 13 octobre dernier après le licenciement de Leonardo Jardim, est avant-dernière de Ligue 1 et restait sur 2 défaites cinglantes à domicile contre Strasbourg 5-1 en Ligue 1 et Metz 3-1, un club de Ligue 2 en Coupe de France. La première de Titi comme entraîneur tourne donc au fiasco et Monaco change une deuxième fois d'entraîneur cette saison après avoir fait signer le champion du monde 1998 jusqu'en 2021.
Transfert, Victor Moses quitte Chelsea.
Oui, dans l'impasse à Chelsea, seulement 176 minutes de jeu cette saison, le Nigérian a profité du mercato d'hiver pour faire ses valises. Victor Moses, 28 ans, s'est envolé mercredi pour Fenerbahçe, où il a passé sa visite médicale en vue d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. A noter que le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, cherche à convaincre le polyvalent joueur de couloir droit de revenir sur sa retraite internationale en vue de la CAN 2019.
Sur le continent, un arbitre nigérien a été suspendu pour corruption.
Oui, Ibrahim Shaibu, ancien arbitre international, a été suspendu à vie par la justice interne de la FIFA pour avoir accepté des pots de vin. L'arbitre nigérien devra en outre s'acquitter d'une amende de 177 000 euros. Monsieur Shaibu avait notamment arbitré une rencontre en 2010 remportée par l'Afrique du Sud face au Guatemala 5-0, rencontre durant laquelle plusieurs pénalties avaient été accordées pour des fautes peu évidentes.
Du cyclisme avec la Tropical Amissa Bongo, la 5e étape se court aujourd'hui.
Et oui, cette 5e étape, elle aussi longue de 120 km, reliera Bitam à Mongomo, en Guinée équatoriale. Hier, le Français Lorenzo Manzin a remporté au sprint la 4e étape, courue entre Midzik et Oyem et longue de 120 km. Manzin, 24 ans, a devancé 2 coureurs italiens, le maillot jaune Nicolo Bonifazio et son compatriote Matteo Pellucci. L'Allemand André Greipel a terminé au pied du podium. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Golden State et Washington 126-118. Oklahoma City et la Nouvelle-Orléans 122-116. Portland et Phoenix 120-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré est connue depuis hier, à 4 jours donc, 4 jours après sa nomination à la primature. Le président Roch Marc Christian Kabore met ainsi en place son gouvernement de combat pour faire face à la fronde sociale, mais surtout à l'insécurité, préoccupation principale des Burkinabés, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Si la majorité des membres du précédent gouvernement a été reconduit, parmi les ministères clés ayant suscité beaucoup de polémiques, notamment la défense et la sécurité, de nouveaux ministres apparaissent. En nommant Moumina Chérif Sy à la tête du département de la défense nationale et des anciens combattants et Ousseni Compaoré à la sécurité, le président du Faso a souhaité donner un signal fort à ses concitoyens. Pour le docteur Siaka Koulibaly, un analyste politique, il reste difficile de lire clairement la position du chef de l'État pour ce gouvernement.
Le chef de l'État, qui est le véritable maître d'œuvre de l'action gouvernementale, s'est doté d'une équipe qui n'est pas très différente de celle qu'on a connue depuis qu'il a pris les fonctions en 2016. On voit que face aux défis que nous avons actuellement, les deux principales options qui lui étaient ouvertes, celle donc de faire un resserrement politique vers son parti qui l'a conduit au pouvoir, ou même au-delà, vers d'autres forces de l'opposition politique, il n'a pas suivi cette option. La seconde option qui était l'option technocratique, c'est-à-dire de mettre des personnes de haute qualité, de haute expérience de la gestion des affaires publiques. Donc le chef de l'État est encore resté entre ces deux principales options. On voit plutôt une équipe qui est prête à servir le chef de l'État ou le Premier ministre. On peut parler d'un gouvernement assez pâle en termes donc, d'orientation politique et idéologique.
Dans la rue, même si le citoyen lambda n'est pas totalement confiant, il interpelle néanmoins les nouveaux membres du gouvernement à leurs obligations de résultats sur la question qui les préoccupe le plus, l'aggravation de l'insécurité liée à l'expansion des attaques djihadistes.
On n'a pas dit que ce sont eux la solution. Maintenant, on souhaite à ce qu'aussi, ils essaient de mieux travailler que les autres. Et au niveau de la sécurité, même s'il faut taper, pourquoi ça arrange là, il faut taper. Il ne faut pas qu'ils dorment, qu'ils se laissent manipuler comme avant.
Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être qu'ils ont des bonnes idées plus que les anciens. On attend de voir.
Nous espérons que les espoirs seront comblés. Je pense que nous pouvons compter sur lui. Je crois que c'est un personnage qui a du caractère. En tout cas, ça sera mieux qu'avant.
Sur ce sujet, la liste politique pèse les avantages et les inconvénients des personnalités nommées au portefeuille de la défense et de la sécurité, Dr Siaka Koulibaly.
Le chef de l'État a répondu deux principales attentes qui étaient, un, de voir changer les personnes qui gèrent donc les deux départements de la défense et de la sécurité, et deuxièmement, de faire intervenir un militaire, au moins dans son gouvernement, ce qu'il ne souhaitait pas au moment de prendre ses fonctions. Maintenant, pour la sécurité, il a mis un officier de gendarmerie qui a une longue expérience donc dans les institutions internationales, mais qui pourrait présenter le désavantage d'avoir été absent très longtemps. Il peut avoir des compétences techniques, mais des difficultés à travailler avec un dispositif dont il ne connaît presque personne. Le chef de l'État, pour la question de la défense, a parlé du budget qui a été augmenté, mais aussi des réformes qui doivent être entreprises dans le domaine de la défense. Donc c'est un premier chantier sur lequel on va attendre le ministre de la Défense et voir si le chef de l'État a vu juste.
Fort de 32 membres, le gouvernement Christophe Marie-Joseph Dabiré est désormais en place et devra travailler à temps plein pour combler les très fortes attentes des Burkinabés. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Cameroun s'efforce de fournir une aide humanitaire à des centaines de milliers de personnes qui ont fui les troubles dans les zones anglophones. Les autorités multiplient les appels pour que les séparatistes de ces régions déposent les armes, mais les affrontements s'y poursuivent, Lionel Gahima.
Une dizaine d'enfants va chercher de l'eau tôt le matin à Yaoundé. Gwendoline Dom, une femme de 45 ans, les a accueillis il y a quelques semaines après leur fuite de Mbengui, son village natal en zone anglophone. Beaucoup ont dû marcher pendant des jours dans la brousse pour échapper aux affrontements entre les forces de sécurité et les séparatistes anglophones. Certains enfants n'ont pas pu retrouver leurs parents et Madame Dum ne voulait pas les laisser vivre dans la rue, mais le fardeau devient pesant.
Je ne peux plus payer les factures d'eau et d'électricité, ni acheter du poulet, de la viande ou du poisson. Un sac de riz de 50 kg dure à peine 2 semaines, car ils ne mangent que du riz au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner.
Le gouvernement camerounais a déclaré cette semaine qu'il venait en aide plus de 60 000 personnes déplacées des régions anglophones du nord-ouest et sud-ouest. Les Nations Unies estiment leur nombre total à plus de 430 000. Les autorités disent ne pas pouvoir atteindre la plupart des déplacés car beaucoup ont fui vers des zones reculées ou sont prises au piège de combat. La plupart des aides sont donc limitées aux zones contrôlées par le gouvernement.
We pray, oh Jehovah, whatever we will give them.
Une femme prie pour la paix alors qu'une centaine de déplacés aident l'ONG La Voix des Sans-Voix à collecter des dons de nourriture ou des vêtements. Christian Chindongong de l'ONG La Voix des Sans-Voix.
Le gouvernement doit écouter les gens, organiser un dialogue, je veux dire un dialogue inclusif, afin que nous puissions voir la fin de cette affaire. Parce que peu importe ce que nous donnons aux gens, cela ne pourra jamais les rendre heureux. Le seul bonheur que ces personnes peuvent avoir est de voir à nouveau leur maison.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a fait savoir que les centres de réhabilitation ont été ouverts pour les séparatistes qui acceptent de se désarmer.
Nous devons respecter les instructions du président Paul Biya selon lesquelles, lorsque vous déposez les armes, vous êtes conduit dans des centres, vous bénéficiez de soins de santé, vous avez des psychologues pour vous aider et nous avons ces centres.
Mais jusqu'à présent, aucun rebelle n'a accepté l'offre. Les centres de rééducation de Buya, en zone anglophone et de Yaoundé, la capitale, restent donc vides. Dans une interview accordée à la VOA, le combattant séparatiste Edouard Ngafin, qui a refusé de dire où il se trouvait, a décrit ces centres comme un piège.
Je n'irai pas dans un centre de réhabilitation du gouvernement et ne dirai jamais à un combattant séparatiste d'écouter les promesses du gouvernement camerounais qui persécute les anglophones et qui vient subitement prétendre s'en soucier et chercher à récupérer tout le monde.
Le conflit dans les zones anglophones a éclaté en 2017 lorsque les manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer la domination francophone. Certains ont pris les armes et ont autoproclamé une nation indépendante appelée Ambazonie. Le président Biya a envoyé l'armée sur place et s'est engagé à écraser tous ceux qui refusent de désarmer car selon lui, l'unité du pays n'est pas négociable.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, les yeux sont tournés vers Khartoum, la capitale soudanaise, abrite depuis hier soir des pourparlers intercentrafricains pour une sortie de crise. Une centaine de personnalités, parmi lesquelles les représentants des 14 groupes armés et ceux du gouvernement, devront plancher sur les revendications de ces mouvements armés. Les réactions à Bangui avec notre correspondant Freeman Sipila.
Même si plusieurs personnalités politiques et de la société civile s'estiment mises à l'écart de ce dialogue, les attentes sont nombreuses au sein de la population. En effet, le gouvernement et les groupes armés vont, à partir de ce 24 janvier, discuter les 104 points de revendication de ces derniers, compilés dans un document unique. À Bangui, plusieurs personnes rencontrées par VOA Afrique exigent la prise en compte des intérêts du peuple et non un partage de gâteaux.
Moi, je suis contre Khartoum. Dans le cas contraire, on utilise le langage de la force. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est les mêmes dire l'admissible par là, on veut rentrer dans le gouvernement. Ces mêmes gens, ça, ils sont dans le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'ils veulent encore?
Ce que nous attendons de la part de l'État, c'est la paix et la sécurité en un seul mot. L'État ne doit pas aller négocier avec eux d'une manière continuelle. Quand nous aurons la paix, du moment où l'État ne cesse pas de négocier avec eux,
on ne peut que dire au président de la République tout ce qui est comme question d'amnistie, question d'impunité, nous la jeunesse on veut plus de ça.
De son côté, le groupe de travail de la société civile GTSC, non convié à ces échanges, attire l'attention des participants sur le respect de la constitution centrafricaine et des recommandations du Forum national de Bangui. Paul Cresson Beninga, son porte-parole.
Toutes les guerres,
qu'il y ait un vaincu et un vainqueur, qu'il y ait ni vainqueur ni vaincu, finissent autour d'une table. Donc pour nous, le dialogue de Khartoum, a priori, nous ne devons pas le rejeter. Seulement, nous voulons attirer, d'une part, l'attention des parties prenantes et d'autre part, celle de la communauté internationale sur un certain nombre de choses. S'agissant des parties prenantes, d'abord, la nécessité de faire en sorte que les textes fondateurs de la République centrafricaine soient respectés, notamment la Constitution et les conclusions de la consultation populaire à la base. Ce sont des textes qui, de notre point de vue, sont fondamentaux et qui méritent respect dans le cadre de la résolution des conflits en Centrafrique.
La réaction des groupes armés ne s'est pas fait attendre. Pour Aboubakar Sidik Ali, porte-parole du FPRC, l'un des principaux mouvements armés, la Constitution n'est pas un livre saint.
La Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est quelque chose que le peuple avait décidé pour établir afin de diriger l'État ou bien la nation. Donc, la Constitution n'est pas un livre saint. La Constitution n'est pas descendue directement de Dieu. Toutefois, on peut le revoir s'il y a un problème.
Dans la foulée des réactions, l'opposant Joseph Bindounga n'attend rien de Khartoum.
Le régime Touadéra va à Khartoum en position de faiblesse, à tel enseigne que ce sont les rebelles, la Séléka, qui va mettre Touadéra en difficulté là-bas, lui faire avaler une ou des couleuvres, chose que le peuple centrafricain n'acceptera pas. Khartoum accouchera d'une petite souris.
Le dialogue de Khartoum, un dialogue de dernière chance. En tout cas, nombreux sont les Centrafricains qui n'en voient pas une issue de sortie de crise. Ceux-ci proposent plutôt des mesures fermes contre les groupes armés qui continuent d'exploiter illégalement les ressources minières du pays. Freeman Sipila Bongi pour VOA Afrique.
Au Nigeria, la tension ne cesse de monter entre l'exécutif et le judiciaire. Depuis l'inculpation pour corruption du président de la Cour suprême, Walter Samuel Onoghen, le gouvernement fédéral l'accuse de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes en banque en devises étrangères. Cette affaire défraie la chronique au Nigeria et elle est très politisée à moins d'un mois des élections générales. Reportage à Abuja de notre correspondant Gilbert Tamba.
Le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la demande du gouvernement fédéral, mais déjà la défense conteste la compétence même du tribunal de code de conduite à juger cette affaire. Le tribunal de code de conduite est créé spécialement pour juger les questions éthiques comme les non-déclarations ou fausses déclarations d'avoir. Il y a quelques jours, la haute cour fédérale d'Abuja a tenté d'empêcher le gouvernement fédéral de poursuivre le plus haut magistrat du Nigeria devant le tribunal de code de conduite. Mais le dit tribunal a ignoré jusqu'ici la décision de la haute cour fédérale. En plus, au sein du système judiciaire du pays, on voit mal la démarche du gouvernement aboutir pour manque de procédures légales dans une situation pareille. Pour l'avocat Ovo, le président de la Cour suprême ne peut être suspendu de ses fonctions pour simple appel des autorités.
He cannot be suspended. He cannot be asked to step aside.
Il ne peut être suspendu. On ne peut pas aussi lui demander de démissionner. Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en suivant la procédure légale comme le prévoit la Constitution. Les recommandations peuvent venir du Conseil national judiciaire et autres, mais il faut envoyer au Sénat. Ensuite, le Sénat doit voter et adopter cette motion à la majorité des deux tiers de tous les membres du Sénat.
Des organisations de la société civile ont manifesté leur soutien au président de la Cour suprême pour dénoncer son inculpation et le non-respect de la procédure. Giva Victor est le coordinateur du Conseil national pour les droits humains et de la justice.
Avant de prendre une action contre un officiel de justice, le Conseil national judiciaire doit statuer sur lui d'abord. Si le Conseil décide d'enlever son immunité judiciaire en ce moment, il peut être jugé de une juridiction compétente, et ça, c'est notre position.
Parmi les manifestants se trouvaient également certains avocats venus soutenir le mouvement des organisations de la société civile. Pelimi Olagengbe est l'un d'eux.
Vous n'avez pas besoin de consulter un marabout pour comprendre que ce procès est politiquement motivé. En une semaine, vous voyez ce qui arrive au président de la Cour suprême du Nigeria. Il y a une tentative d'interférence dans le système judiciaire du pays. Et nous ne sommes pas là pour le chef de la justice seulement. Mais nous croyons que l'indépendance du système judiciaire doit être respectée.
L'opposition a aussi accusé le gouvernement de vouloir se débarrasser du juge suprême, considéré encombrant pour le pouvoir actuel, alors que la Cour suprême est compétente pour régler les éventuels litiges liés au scrutin de février prochain. Pour la deuxième fois depuis son inculpation, Walter Samuel Onoghen était absent lors de l'audience qui s'est tenue mardi dernier devant le tribunal de code de conduite. La prochaine audience sur cette affaire affaire est prévue pour le 28 janvier prochain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.